La Geek Nation partie 2, c'est maintenant à fond dans tes oreilles.
Il est vraiment temps qu'on change ces jingles. Bonsoir, bonjour, salut tout le monde. On se retrouve pour cette troisième partie de l'émission spéciale fête de fin d'année et on attaque une émission spéciale épiphanie. Je sais pas quoi dire de plus. Nous avons au programme évidemment toujours une chronique et un jeu, mais avec moi ce soir évidemment il y aura Arnaud. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Arnaud.
Axel.
Hello.
Et Kevin McAllister.
Non, non, je ne suis pas Kevin McAllister, simplement Kevin. Merci.
Bon, est-ce que vous êtes prêts?
Très. Oui.
Toujours. Alors, c'est l'heure de la chronique gaming.
Putain de jingle.
Étalons du cul. Étalons du cul.
C'est l'heure de parler gaming dans la Geek Nation.
De l'émission.
Let's go.
Bref, Arnaud, c'est à ton tour, tu vas nous parler de...
Alors moi, je vais vous parler de la dernière fois Kevin avait fait sa chronique sur « Maman, j'ai raté l'avion ». Eh ben, ça va pas louper, parce que la fois d'avant, j'avais été puni, parce que j'avais loupé mon jeu, donc je devais parler de trucs que j'aimais pas trop. Alors j'aime bien « Maman, j'ai raté l'avion », mais du coup, je parle des jeux vidéo, et là, c'est pas vraiment la même tisane. Alors pour les jeux vidéo, ça va pas être exhaustif, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et ils se ressemblent énormément. Donc j'ai dénombré exactement 8 jeux sur le premier et 5 jeux sur le deuxième. Je parle des films. Et donc il y a des jeux qui sont sur NES, sur Super NES, sur Game Boy, sur Amstrad CPC, enfin il y a vraiment de tout. Et je vais commencer par les jeux NES et Super NES. Après je vais parler d'une petite surprise qui est très rigolote et après je vais finir, même si ça triche un peu, par mon jeu préféré que j'ai eu quand j'étais gamin de Maman, j'ai raté l'avion.
Et nous reviendrons dans 2h30.
C'est ça, on en est où par rapport à une échelle de Kingdom Hearts?
On en est à... ça va pas être très long.
D'accord, ok.
Il n'y a pas grand chose à dire sur les jeux. Alors déjà, le jeu sur NES, c'est une succession de tableaux et on doit survivre dans la maison pendant une vingtaine de minutes. Et c'est tout. On peut se cacher derrière les canapés, derrière le sapin, derrière le lit. On peut ramasser des objets pour les jeter sur les voleurs. Mais c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. 20 minutes à se planquer. Et si on se pose la question, oui, tu peux juste rester planqué au même endroit pendant 20 minutes et t'as gagné. Voilà, ça c'est le jeu sur NES. Incroyable.
On est au maximum du fun.
Ah là là, on est vraiment très loin. Et sur, il me semble que sur Game Boy, c'est exactement le même jeu, mais en Game Boy. Déjà qu'il est pas beau sur NES, alors sur Game Boy, c'est encore pire. Sur Super NES, on a à peu près le même genre de jeu, sauf que cette fois-ci, on doit chercher les richesses de la maison pour les envoyer dans le vide ordure, pour les metre loin des casseurs-flotteurs. Même s'il n'y a pas que les casseurs-flotteurs qui volent dans la maison, mais ça, c'est pas très pertinent non plus. Dans ce jeu, on peut récupérer des armes comme des pistolets à eau pour se défendre ou alors pour poser des pièges et tout ça. Il y a un bestiaire qu'on peut affronter qui est exactement le même que dans le film. Kevin, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'on affronte les casseurs-flotteurs dans le film.
Oui.
On affronte des rats, des araignées, des fantômes, des chauves-souris. Il y a tout ça dans le film. Hein.
Alors, exactement. Il faut savoir que dans le film, il n'y a rien de tout ça.
C'est bien ce qui me semblait. Je ne me rappelais pas des passages avec le fantôme. Mais on doit se bagarrer contre eux dans le jeu et puis enchaîner des tableaux comme ça. Alors... il y a un truc aussi qui est très rigolo, c'est que, et je l'ai su en faisant la chronique, c'est qu'il y a un jeu sur PlayStation 2 qui est sorti en 2006.
Oui.
Rappelle-moi, Kevin, 2006, ça correspond à quel film?
Là, je t'avoue que j'ai lâché depuis longtemps, comme je l'ai dit dans la précédente chronique. Moi, après le 2, c'est mort.
Et le 2, c'était quelle année?
Le 2, c'était déjà fin des années 90, milieu des années 90.
Donc on est en plein dans la hype, Maman, j'ai raté l'avion.
En plein dedans, en plein dedans. On est tellement en plein dedans que effectivement ce jeu extrêmement pertinent de sortir.
Officiellement 13 ans de retard.
Il n'y a aucune raison de sortir.
Alors pour la petite anecdote, 2006 ça correspond à l'année européenne et occidentale de Kingdom Hearts 2.
Non.
On y revient, tout est lié.
Laissez-moi vous dire qu'entre celui-là et Maman, j'ai raté l'avion, le choix est vite fait. Alors... dans ce jeu, on contrôle un Kevin qui ressemble absolument pas à Kevin, si ce n'est qu'il est blond aux yeux bleus. La caméra est vue de dessus, enfin c'est plus un peu isométrique, et en fait on est dans une salle qui peut être un peu grande, et on doit fermer les portes pour éviter que les voleurs s'enfuient, Donc c'est totalement l'inverse du film, mais pourquoi pas. Et on peut chercher des objets pour les jeter sur les voleurs, pour les étourdir. Mais c'est tout. Et tous les tableaux, c'est ça. Imaginez Bomberman, un peu dans l'idée, sauf qu'on doit fermer les portes, et c'est tout. Et on commence avec la maison avec un petit jardin, après on est dans un sous-sol, après on est dans une usine. Rien à voir. C'est excellent, ça a rien à voir. Donc je vous passe énormément de jeux qui sont comme ça. Pour terminer sur le jeu de Mega Drive qui est sorti dans les années 80, là, en 91, c'est la même année que le premier film, il me semble. Ou l'année d'après, je ne sais plus trop. Et celui-là, par contre, c'est vraiment une petite pépite. On joue Kevin et le but du jeu, c'est de protéger la maison. Mais en fait, on protège 5 maisons. Et ces 5 maisons, elles ont toutes des particularités. Il y en a une, par exemple, c'est une maison futuriste. Donc il y a un robot qui essaie de nous attraper. Il y en a un autre, c'est une vieille maison hantée avec un fantôme qui nous poursuit. Il y a une maison abandonnée avec plein de trous partout. Et quand on peut marcher, on peut traverser le sol. Le jeu est super beau. Il est blindé d'animations rigolotes. Et le truc fun dans ce jeu, c'est qu'on peut ramasser plein d'objets pour après crafter d'autres objets. Par exemple, on peut crafter un pistolet qui tire des boules de neige et qui transforme en bonhomme de neige les ennemis. On peut transformer les ennemis en gros ballons. Enfin, il y a énormément de trucs comme ça. On peut poser des pièges. À chaque fois qu'on rentre dans une maison, on voit le plan de la maison et on peut poser des pièges sur le truc. Et c'était vraiment, vraiment très rigolo. Bon, après, il dure que 40 minutes, le jeu. Donc, encore une fois, c'est pas...
C'est plus court. Non, c'est plus long que la campagne du dernier Call of Duty.
Exactement. Je vais conclure sur celui-là, mais Kevin, dis-moi, la défense de maison, ça correspond à quoi dans le film ?
Alors, la défense de maison, il faut savoir que dans le 1 comme dans le 2, c'est un tout petit bout du film, c'est entre 15 et 20 minutes, grand max.
Ben, tu vois, je crois qu'ils ont pris ce chrono pour faire le jeu sur NES.
Ouais, non, mais c'est ça. Alors, si tu me permets, je vais faire une petite conclusion vis-à-vis de l'adaptation, puisque au final, ces jeux sont adaptés donc d'un tout petit moment des films, qui est loin d'être en plus le plus pertinent, puisque, comme j'en ai parlé dans ma dernière critique, le plus pertinent, c'est l'évolution de Kevin. Donc, des jeux qui adapte mal le matériel d'origine, qui en plus adapte une partie hyper courte. Que dire ? Merci le merchandising.
Après, il faut leur reconnaître que le côté défense de maison, c'est très vidéoludique. C'est vraiment le truc.
Alors,
on n'aurait peut-être pas pu faire autre chose dessus, même si c'est vraiment juste pour surfer sur la vague de Maman, j'ai raté l'avion qu'ils ont fait ce genre de jeu.
Oui. Après les conclusions en termes de jeu et tout, je te laisse. Moi là, c'était vraiment en termes d'adaptation.
Ouais, non, mais c'est ça. C'est l'adaptation, c'est pas foufou. Pour conclure avec tout ça, je peux vous rediriger vers l'épisode 164 de l'AVGN, l'Hungry Video Game Nerd. Il parle de tous les jeux. Il fait la vidéo avec Macaulay Culkin justement, et c'est très rigolo à regarder. Et puis il y a la vidéo qui est très très drôle. Et on y voit un peu le jeu NES et Super NES justement dedans.
T'as un épisode de l'Antre du Mea qui est consacré au jeu, au melon et au film.
Exactement, aussi. Il y a tout ça. Et voilà, c'est terminé pour moi.
Merci Kevin.
Merci Kevin.
Arnaud. Arnaud.
Mais de rien, je vous en prie.
Merci Kevin.
Mais de rien.
Merci Kevin et Arnaud.
Je dois vous avouer que j'ai découvert ce film extrêmement récemment sur Disney+. Et que je n'ai pas du tout un film d'enfance pour moi.
C'est pas grave, on te pardonne.
Bon, je pense que vous attendez un ABC Geek, là.
Ouais, ça serait pas mal.
Eh ben non.
D'accord.
Il y a un nouveau jeu.
Un XYZ.
Est-ce que vous vous souvenez, vous les deux vieux, là, d'un jeu qui s'appelait le Schmilblick?
C'est quoi cette merde de ouf, hein.
Ça me rappelle quelque chose.
Le Schmilblick, c'est un célèbre jeu radiophonique où il fallait trouver l'objet en question, le Schmilblick, en ne posant que des questions par oui ou par non.
Oui, d'accord.
Okay.
Oui. Je vous propose...
Un peu comme quand tu te colles une étiquette, est-ce que...
Je vous propose la version geek.
Allez. Du
Schmilblick.
Fais péter.
Appelons-le...
Toi, tu parles du devine-tête.
Appelons-le...
Oui, c'est ça.
Le Ghiblick, par exemple.
Le Ghiblick.
Le Ghiblick, c'est pas mal.
Le Ghiblick est un accessoire de gaming virtuel.
OK.
Fort bien.
Et on doit poser des questions ?
Oui, par oui ou par non. Vous devez trouver ce que c'est. Celui qui trouve gagne encore une fois un cadeau.
Est-ce que c'est le Virtual Boy ?
Pas du tout.
J'y ai pensé.
Quand j'ai dit virtuel, ça ne veut pas forcément dire que ce soit dans notre monde.
Bien sûr.
Il est dans un jeu vidéo ?
Oui.
Ok.
Ah, mais d'accord.
C'est
ça
un
peut
vieux
être
jeu vidéo.
Non.
Ça peut être, par exemple, l'anneau du Mordor, par exemple.
Non.
C'est de la technologie.
Oui.
Il est virtuel même dans le jeu vidéo.
Non.
Est-ce que c'est le Portal Gun?
Oui.
Oh purée, bien joué.
Ouais, donc c'est ça. Ça peut être c'est un objet dans un jeu vidéo.
Oui.
Ok, j'ai pas du tout compris ça.
Eh ben voilà. Okay. Le premier Geekblick a été trouvé par Kevin.
Et on t'offre le Portal Gun.
Trop cool, je vais pouvoir me téléporter.
Kevin, est-ce que tu aimes un jeu dénommé Cyberpunk 2077?
Il est sur ma liste de jeux à faire.
Oui, est-ce que ce genre de choses te parle?
Le cyberpunk, totalement.
Oui.
Ouais, moi je l'ai kiffé.
Puisque j'ai devant moi la nouvelle traduction du roman de William Gibson,
le romancier.
Énorme.
Le romancier.
C'est beau ça.
Le romancier en VO. Premier tome de la trilogie Au diable Vauvert avec une nouvelle traduction encore une fois. La gueule est absolument folle. Il y a plein d'illustrations. Tiens.
Ah, il a gagné en un
merci. Oui. Oh, trop bien, merci.
Je te l'emprunterai, je ne l'ai qu'en version numérique.
Sans problème. D'ailleurs, il y a un film de romancier avec Keanu Reeves. Je tenais juste à le souligner.
Qui s'appelle Johnny Mnemonic et qui n'est pas une adaptation de romancier, mais de la nouvelle préquelle de romancier.
Exactement.
Ah, mais c'était un jeu.
Il a un sourire comme un enfant, là.
Oui, c'était un
jeu. J'aime Noël, j'aime Noël, j'aime les fêtes.
En fait, j'avais rien compris. En fait.
J'étais totalement perdu.
Ah, j'étais pas là-dedans.
Bref. Vous attendez une fin d'émission, là?
Ou d'autres questions?
En fait, j'ai envie de vous faire une petite surprise à tous.
Ouais.
Ça fait longtemps que j'ai plus fait de chronique dans cette émission et j'avais envie de faire une chronique.
Ah bah,
ce soir,
j'avais
envie de vous parler. Vous nous avez parlé tous les deux de votre film de Noël préféré. Bah, moi, j'avais envie de vous parler du mien. Je retrouve mes feuilles et j'arrive.
Fantôme en fait ?
Pas du tout.
Moi, c'est Predator.
Bah alors, tu nous as menti la semaine dernière.
Oh oui, je vous ai.
Ouais, non, c'est Die Hard, ton film préféré.
Exactement.
C'est bon, on le sait.
Pas besoin de chronique, du coup.
Donc, merci à tous.
Allez.
Aucun respect.
Je vous ai écouté parler de Maman, j'ai raté l'avion.
T'as subi 50 minutes de Kingdom Hearts, tu peux avoir tout ce que tu veux.
Voilà.
50 minutes.
Ma chronique ne va pas durer 50 minutes. Vous avez tous les deux parlé d'un film de Noël que vous aimez beaucoup, alors j'ai très envie de vous parler du mien. Même si personne n'est d'accord pour savoir si c'est oui ou non un film de Noël, en fait.
Ça se passe à Noël. Hein.
Oui, mais sachez que quand le temps est épouvantable dehors, mais que le feu est chaleureux comme jamais, et qu'il n'y a aucun signe que ça se calme, et même si je n'ai pas acheté de quoi faire du pop-corn, je me retrouve invariablement devant chaque année. Ce film avait tout pour ne jamais exister. Une suite d'un film que tout le monde a oublié, un acteur trop vieux pour reprendre son rôle, un roman compliqué à adapter, des tas d'acteurs bankable qui l'ont refusé, et un illustre inconnu auquel personne ne croit qui se retrouve avec la tête d'affiche. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de mon film de Noël préféré, Die Hard, ou Piège de cristal, en français.
It's Christmas Eve in L.A.
California.
Is Daddy coming home with you?
Well, we'll see what Santa and Mommy can do, okay?
A New York cop, John McLean, has come to see his wife.
I missed you.
Instead, he's going to have to save her.
Sit down.
Et comme le dit la suave voix de Don LaFontaine, et pour les deux du fond qui n'auraient jamais vu ce classique, Die Hard, c'est l'histoire du policier du NYPD John McClane qui vient à Los Angeles pour passer Noël avec sa future ex-femme et ses enfants. Cette dernière, du nom de Holly Gennaro, lui envoie une limousine à l'aéroport pour l'amener au réveillon organisé par sa boîte, le groupe Nakatomi, dans leur nouveau siège de LA, un gratte-ciel sobrement nommé le Nakatomi Plaza. Mais rien ne va évidemment se passer comme prévu. Au moment où John arrive à l'étage de la réception et rencontre les collègues de sa femme, et notamment son boss, Monsieur Takagi, un groupe de terroristes surarmés rentre comme si de rien n'était par le parking. John, en train de se changer dans une salle de bain de l'étage, entend les premiers coups de feu et s'enfuit en Marcel, sans ses chaussures, avec son arme de service. Et à partir de là, tout dérape. John va tout faire pour sauver sa femme et ses collègues à lui tout seul, la police de Los Angeles le prenant pour un terroriste Et les vrais terroristes, pas dans ce temps, tuent Takagi, qui n'avait pas la combinaison du coffre qu'il convoitait, et se lancent dans une opération de forage de coffre-fort. Alors que leur chef Hans Gruber et son homme de main blond se lancent dans une croisade personnelle pour écraser la mouche qui grippe le rouage de leur plan. John.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à...
Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message.
Vous auriez dû faire une note de service. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire.
Comment est-ce qu'il peut savoir ?
C'est très délicat de votre part.
Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant.
Pour un gardien de la sécurité.
Désolé, Hans, vous avez perdu.
Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance.
Qui êtes-vous ?
Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur.
D'ailleurs, c'est un festival d'action en tout genre. Un scénario simple, mais bougrement efficace. Doublé par la performance des deux comédiens principaux, à savoir Alan Rickman, dans le rôle du subtil terroriste allemand Hans Gruber, et évidemment Bruce Willis, dont c'était le premier grand film, qui incarne un McLean survitaminé qui court, saute, crie, insulte copieusement Hans et même...
Told her it took me a while to figure out what a jerk I've been. But, that when things started to pan out for her, I should have been more supportive. And, I just should have been behind her.
Vous l'aurez compris, Die Hard tranche radicalement avec les actionneurs bourrins des 80s, aux antipodes des héros virils et musclés qui caractérisent la décennie jusque-là. McLean est plus humain, plus à fleur de peau et beaucoup plus marrant sur bien des aspects.
Les terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomi. Ils ont pris au moins 30 otages. Je répète, un nombre inconnu de terroristes avec des armes automatiques occupe le Nakatomi Plaza, Century City.
Quel est le meilleur endroit où émettre ?
Répondez-moi, mon Dieu !
Sur le toit. Vas-y, montez !
Ça vient du même endroit que le signal d'incendie. Je m'en charge.
Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Sans parler du doublage de ces deux-là, assuré non moins par Patrick Poivet et Pascal Renwick. Mais pour en arriver là, ce ne fut pas une sinécure, croyez-moi. Au départ, il y avait un film de 1968, The Detective, réalisé par Gordon Douglas avec Frank Sinatra. Ce dernier adore tellement le script adapté du roman éponyme de Roderick Thorpe qu'il décide, pour accepter le rôle, que dans son contrat, une clause doit être ajoutée pour que si une suite était produite, il devait obligatoirement être dedans. Thorpe écrit justement une suite à The Detective en 1979, nommée Laughing Last Forever, et les droits sont achetés par la Fox à la fin des années 80. La clause du contrat de Sinatra s'enclenche alors. Mais il décline la proposition, conscient d'être trop âgé pour le rôle. Le script est alors totalement remanié par la Fox pour en faire une suite des aventures de John Matrix, le héros incarné par Arnold Schwarzenegger dans Commando en 1985. Mais il décline également. Le scénario est alors encore remanié, et le rôle de John McClane est alors proposé à toutes les stars des films d'action de l'époque, comme Sylvester Stallone, Richard Gere, Mel Gibson, Al Pacino... et même Burt Reynolds. Tous refusèrent leur rôle. Les producteurs se tournent alors vers la télévision. Ils jettent leur dévolu sur trois stars du petit écran du moment, Don Johnson, qui cartonne à ce moment-là dans Miami Vice, Richard Dean Anderson et son mulet, et Bruce Willis, alors en pleine vague clair de lune. L'acteur est le seul des trois à ne pas être vraiment connu à l'international. La Fox décidera donc de ne pas mettre son visage sur les affiches internationales du film à sa sortie. Sacrément salaud quand même. Pour la réalisation, le producteur Joel Silver choisit son nouveau poulain qui avait transformé son... Ajouté à tout cela la BO iconique de Michael Kamen et du Beethoven. Et vous obtiendrez un des succès surprises de l'année 88, qui après 16 semaines, fit 83 millions de dollars au box-office US et 141 millions à l'international. Le début d'une légende, non ?
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs.
Allez, joyeux Noël. Et yippee-ki-yay, pauvre con. Voilà.
Impeccable.
Magnifique.
Parfait.
J'adore ce film.
Ouais, bon, c'est comme ça. Ça sent.
Toi, tu préfères pas le 3 ? Moi, c'est celui que je préfère, c'est le 3.
Alors, j'aime les deux, parce que c'est les deux films. C'est John McTiernan qui a réalisé les deux films.
Bien sûr.
Mais le premier est quand même culte pour ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est déjà le premier, c'est un film de Noël. C'est, ils ont réussi à révolutionner le genre en un film. Le troisième, c'est un peu l'aboutissement de ce que va devenir le Die Hard-like au cinéma. Et ce sera même le fossoyeur du genre. Ouais. Parce qu'après ça, plus personne réussira à faire un Die Hard-like. Et la preuve, c'est qu'entre les deux, ils ont tenté d'en faire plein. Il y en a eu un avec des gamins qui, dans un pensionnat qui devait affronter des terroristes. Il y en a un avec Steven Seagal dans un bateau, puis dans un train. Stallone en a fait un sur une montagne. Sans parler évidemment de Jean-Claude Van Damme qui l'a fait dans un stade.
La Tour Montparnasse. Et Maman, j'ai raté l'avion, c'est pas un peu.
Non, pas vraiment. Non. Ce qui fait que le fossoyeur du genre, c'est totalement derrière 3.
Ouais.
Qui a,
il y a Speed sinon.
Il y a clos la boucle. Speed était déjà dans un genre un peu différent.
C'est vrai, parce que c'est mobile, mais Speed, c'est totalement ça.
Bah, pas tant que ça, parce que le personnage de John McClane est au mauvais endroit, au mauvais moment, et refuse d'être là. C'est la base d'un Die Hard.
C'est vrai.
Alors que tout ce que fait Keanu Reeves, c'est vouloir protéger les gens et se mettre au premier rang à chaque fois.
C'est vrai, c'est vrai.
Là, on est sur un, on est sur un actionneur qui sera plus proche de ce que va être Mission Impossible par la suite ou GoldenEye l'année suivante.
Ouais. Effectivement.
La preuve, c'est que l'année 95, c'est un peu un tournant dans le cinéma d'action. L'été, on a Die Hard qui sort, Die Hard 3. Ouais. D'ailleurs, la tagline, c'était « L'été sera chaud ».
Oui, c'est vrai.
Et en novembre 95, c'est GoldenEye qui sort et qui transcende complètement les codes du film d'action.
C'est vrai.
Et ensuite, qui sera suivi l'année suivante par le premier Mission Impossible avec Tom Cruise.
Qui était encore une relecture de Mission Impossible où il détruit tout le cast pour refaire ses fondations.
C'est ça. Ouais.
Exactement.
Mais c'est le début d'un nouveau cycle. Comme Die Hard, Piège de Cristal, ouais, était le début d'un nouveau cycle. Sachant que quand on voit le film précédent de McTiernan, c'était Predator. Et Predator détruisait complètement le canevas de l'actionneur avec la première scène où ils réussissent plutôt bien à défoncer tous les rebelles.
Ouais.
Et au moment où le Predator arrive, il n'y a plus personne.
Oui, mais ça, c'est justement jouer sur les genres pour donner cette ambiance si particulière au film Predator. C'est différent. Predator, je ne peux pas le mettre aujourd'hui. On ne peut pas vraiment le mettre dans un actionneur convenu comme Commando, Terminator, Die Hard, etc. Parce que le but n'est pas c'est encore le premier acte, c'est même
l'introduction,
ouais, c'est le tout début du premier acte. Et dans Predator, très vite ils se font décimer, donc on est plus d'ailleurs dans un slasher à la rigueur que dans un actionneur.
La première fois que tu vois le film, au moment de sa sortie en
87, tu t'attends complètement à un actionneur.
Tu t'attends à un actionneur et surtout tout le début du film t'envoie dans cette direction-là.
Ah ouais,
le moment où où les deux se saluent au début avec leurs muscles, tellement ça.
Dylan.
Non, mais on est bien d'accord. Mais justement, cette coupure, cette scission en plein dans le film, ça permet de vraiment instaurer une.
Et pour moi, c'est ambiance. La voie royale vers Piège de Cristal.
Ouais, non,
ah, je sais pas. Là-dessus, moi, ça me...
Ça change les codes, quoi.
Voilà.
Ouais. Ça change les codes.
Parce qu'on est à l'opposé de ce que pouvait être Rambo quelques années plus tôt.
Oui, grave.
John McClane est l'antithèse de Rambo.
Déjà, le tout premier Rambo, c'est déjà pas un actionneur, donc...
Non, mais Rambo
2... Non, mais 2 et 3, c'est autre chose.
Bah, le 3, surtout.
Le premier est un film de guerre bancal. Bancal parce que c'est pas tout à fait un film de guerre et c'est pas tout à fait un film d'action.
Non, ouais.
Et le deuxième, par contre, est l'exemple même du cinéma régalien.
Là, c'est un actionneur de ouf, le 2. Et le 3, c'est encore pire.
Et le 3 a complètement foiré. Ah,
mais pour revenir sur le premier, déjà, c'est une adaptation. C'est rare au cinéma. C'est une adaptation de livre. Hein. Tellement rare.
C'est rare.
Totalement.
Je crois pas pouvoir citer un autre film.
Non, ouais, moi
ça.
Non plus. c'est plus une satire sociale qu'un film de guerre, effectivement. Donc oui, il est bancal dans le film de guerre, mais après, c'est comme c'est une satire sociale. C'est comme Rocky 1, c'est une satire sociale.
Oui, totalement.
Un jour, peut-être, vous parlerez de films que j'ai vus.
Tu n'as pas vu Rambo ?
Non, mais je n'ai pas... Alors, j'ai vu des extraits, mais en fait, c'est des films, à la base, qui ne m'attirent pas. Moi, les films d'action que je regardais quand j'étais petit, c'était les Jackie Chan et les Bruce Lee. Ouais.
Ah oui, d'accord. Donc, oui, tu étais dans le très vieux, quoi.
J'étais dans le très vieux, effectivement.
Et encore, c'est parallèle. Je veux dire, le syndicat du crime, c'est 87,
ouais,
en fait.
C'est vrai.
Donc, effectivement, ces films, j'en ai entendu. J'ai vu des extrêmes, mais je ne les ai jamais vus en entier. Même Die Hard et Il va me tuer. Je me suis endormi devant.
Ah, mais ça, je comprends.
Ouais, mais peut-être que tu étais fatigué.
Non, mais surtout que j'adore
l'univers.
Ouais, et l'ambiance sonore aussi du film, en fait. Tout m'attire dans ce film, mais je me suis endormi comme une merde.
C'est 88. Hein.
Oui, c'est ça. Et 87, Predator.
Ouais, Predator.
Et 90, d'ailleurs, 2. 58 minutes pour vivre.
Je crois que j'ai jamais vu
un film
Mission Impossible.
C'est ça. Alors, l'émission Impossible, j'ai vu le premier, je me suis arrêté. Hein.
Mais,
et puis, pour revenir sur ce que tu disais, c'est également le Fossoyeur. Il faut rappeler que 95, donc c'est le troisième Die Hard. 6 ans après, il y en a qui ont essayé de refaire des gros trucs comme ça, destruction. Mais 5 ans après, il y a un truc qui a changé le cinéma hollywoodien et le cinéma d'action, c'est le World Trade Center.
Oui, totalement. Et ça a coupé dans son élan les films comme Mission Impossible.
Et les Jason Bourne.
Le Jason Bourne arrive à peu près au même moment.
Et Spider-Man aussi, le premier.
Mais Spider-Man, il y a juste eu une coupe de plan.
Ouais,
Jason Bourne, ils ont dû retravailler tout le scénario pour ne pas faire, pour qu'il n'y ait plus en fait de choses qui pourraient évoquer un acte terroriste sur un immeuble, etc.
Mais, la preuve ultime à ce moment-là que les films d'action légers, comme pouvaient l'être les James Bond des années 90, ne pouvaient plus marcher, c'est Meurt un autre jour.
Ah ouais ?
Parce que Meurt un autre jour sort en 2002 et juste après le 11 septembre et est une foirade absolument totale.
C'est vrai que c'était.
Alors qu'on n'est pas si loin de ce que Pierce Brosnan nous proposait dans Un demain ne meurt jamais, hein, à part les CGI en plus. Mais en soi, ça vous voit que le public a changé et qu'on a encore un troisième cycle qui s'est terminé.
Ouais.
Et aujourd'hui, la quintessence du cinéma d'action, ce serait plutôt John Wick.
Ouais, c'est
finalement.
Vrai.
Et on est sur un autre cycle du genre.
En termes de James Bond, il y a eu avec Daniel Craig, c'est quand même très très bien. Quoi.
Oui, mais pour moi, John Wick et Casino Royale, c'est un peu le même combat. C'est cette volonté de faire des films d'action beaucoup plus réalistes, beaucoup plus froids, beaucoup plus humains, qui sont à l'opposé de ce que pouvait être GoldenEye et encore plus Piège de Cristal.
Ouais.
Parce que même si dans Piège de Cristal, on posait des héros entre gros guillemets réalistes, quand on le met face à Casino Royale, ça marche pas, en fait.
Non, ça marche pas de la même manière.
Là, effectivement, on n'est plus sur le même actionneur. On est sur l'actionneur qu'a commencé les Jason Bourne. Froid, distant. Le mec est une armée à lui tout seul. Réellement, John McClane, il tombe sur Jason Bourne. Jason Bourne, il est formé pour ça. Contrairement à McClane, qui est juste policier, donc il improvise. Là, effectivement, que ce soit John Wick, que ce soit Jason Bourne, ils sont formés à tuer et à décimer, quoi. Donc c'est froid, c'est calculateur et c'est avec le moins de dégâts possible.
Oui, complètement. À l'opposé de ce que pouvaient être les films d'avant, quoi.
Mm-hmm. Juste la scène de Cyberdyne dans Terminator 2, le bâtiment déguste plus que n'importe quel humain, puisque à la fin, le décompte des morts, il n'y en a zéro. Par contre, le bâtiment, il a ramassé.
Ça, c'est clair. Bref, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Mais avant ça, vu que Axel n'a pas gagné de cadeau durant cette émission, je lui offre ceci.
Alors, vous ne voyez pas du coup, mais c'est le livre Dune de Frank Herbert.
Magnifique.
Excellent.
Le premier tome.
Magnifique.
Sachant que je n'ai pas vu les films, je suis désolé, j'ai rien vu en fait.
C'est pas grave. Justement, lire le livre,
justement,
c'est pas simple à lire.
Ça
mais
te donnera peut-être envie de voir les films, notamment ceux avec Timothée Chalamet.
Celui-là, oui.
Et toi non plus, t'as rien gagné.
Alors,
Écoute, moi, c'est moi qui vous offre des cadeaux.
Merci
c'est
beaucoup.
Moi le Père Noël.
Merci Père Noël.
Pensez à moi la prochaine fois, c'est tout.
Merci trop lune ou pas merci trop lune.
Oui. Merci trop lune.
Merci trop lune.
Merci trop lune.
Bon, alors, par contre, il y a quand même presque 1000 pages.
Oui, oui.
Du coup, on se retrouve en juin.
Et c'est galère à lire. Hein. C'est galère. Hein.
Alors,
ça va dans tous les sens
alors,
et tout, mais c'est bien.
Pour le coup, moi qui suis dyslexique, j'ai réussi à le lire. Il se lit très bien. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que ça va très bien, ça se lit bien. Après, j'espère que ça te donnera envie de voir les films, que ce soit ceux de Denis Villeneuve ou même celui de Alan Smithy ou David Lynch.
Hein
mais pas les mini-séries de sci-fi, jamais.
C'est ça, jamais les mini-séries de sci-fi. Mais les deux films, je te les recommande. Il y en a un qui a très mal vieilli et puis l'autre, il est quand même vieux.
En tout cas, je vais le
lire. Oui.
Eh ben, lis-le.
Je suis fan de SF. C'est pour ça qu'on me retrouve rarement sur les films que vous citez. Parce que je pense que j'ai vu beaucoup de classiques, mais pas les mêmes que vous. C'est vraiment aussi une question de génération.
C'est pas grave.
Parce que vous êtes vieux. Voilà.
Non, mais, alors, on reprend ce qu'on avait dit. On arrête sur les vous êtes vieux, vous êtes jeunes. Et ensuite, sur de la SF, c'est tellement large. La SF, il y a tellement de styles et de sous-genres. Que, même si moi, tu peux dire je suis fan de SF à quelqu'un, à un autre fan. Si ça se trouve, lui, il va être fan de Space Opera et toi de
Post-apo.
De Post-apo. De
Terminator, c'est de la SF.
Je oui. tiens juste ouais. à vous rappeler quand même que Conan est sorti dans les années 30, que Dune est sorti dans les années 60 et que Neuromancien est sorti dans les années 70-80.
Ouais. Et du coup
donc, oui, mais déjà, Conan, on est dans le fantastique, on n'est pas dans SF.
Oui, mais justement, le côté universel de la chose, c'est que même les bouquins des années 30, on les lit maintenant. Donc...
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est et plus une excuse, ça.
Il y a plus d'adaptations de Conan avec les BD, avec les comics, que de Dune ou de d'une romancière.
Mais déjà, tu prends la SF.
Effectivement.
Tu prends La Guerre des Mondes, qui à la base est un livre. Non, qui est même pas. Non, qui est. C'est à la radio.
Non, c'est un livre de H.G. Wells.
Mais non, à la base, c'est pas un livre. C'est Orson Welles a fait un.
C'était un canular.
C'est pas un canular. C'était le genre d'épisode. C'était une diffusion radio. C'était l'épisode. Il l'a écrit sur ça. Et puis après, il en a fait un bouquin. Mais à la base.
Non. C'est un bouquin du 18e siècle d'H.G. Wells, le War of the World.
Ah ouais.
Et a inspiré Orson Welles pour son canular radiophonique 50 ans plus tard.
Attends, du 18e siècle.
Oui, c'est l'auteur de.
C'est devenu un canular.
C'est devenu un canular, mais à la base, c'est juste un épisode de.
C'est aussi l'auteur de La Machine à explorer le temps. Hein,
moi, j'ai retenu que c'était un canular. Hein.
Non, c'est devenu un canular, mais à la base, c'était un épisode comme tu regarderais ton épisode de Doctor Who, de Friends ou de machin. C'était le standard de diffusion à l'époque, à la radio. Et c'est devenu un canular.
Parce que les Américains sont...
Stupides.
Pardon. Américains.
Il s'est arrivé aux Belges il y a quelques années.
Ouais. Parce que les Belges, non, je rigole.
pédophiles. Pardon.
Oh putain, mais sérieux là. Il y a quelques années, en Belgique, toute la rédaction de la RTBF se sont donné le mot pour faire un faux journal télévisé annonçant la scission de la Belgique.
Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler. C'est trop rigolo.
Mais cependant, c'est plus logique qu'une attaque. Parce que La Guerre des Mondes, c'est quand même spécial. Alors
oui,
après...
mais là, c'était à une époque où il n'y avait pas la télé.
Bon, sur ce, je pense qu'il est temps d'y aller. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle formule de l'émission. En attendant, portez-vous bien. Merci à vous d'être venus.
Et
à la
bonne
prochaine.
Épiphanie.
Allez.
Bonne épiphanie, bonne année, meilleurs vœux.
Bonne fête.
C'est parti.
Retrouvez l'intégrale de la Geek Nation sur SoundCloud. Sur Spotify, Deezer, Amazon Music et Podcast Addict. À la prochaine.
Mais son de 3 secondes.
Le Dune, il est très bien.
Non mais je veux dire. J'ai vu.